le fils Moga. Première partie, chapitre 2. Pendant ce temps, Thérèse tournait lentement les feuillets de son livre, sans se douter de l'orage qui s'agitait sous le crâne chauve du docteur. L'ouvrage qu'elle parcourait était une histoire des lépidoptères d'Europe, avec planches coloriées. Parmi les doctes bouquins de la bibliothèque, c'était son seul livre favori. Elle aimait à y retrouver les images des papillons qui volent librement dans les prés et aux lisières des bois. Elle saluait au passage, comme des vieilles connaissances, les argus bleus du ciel, les flambées aux ailes jaunes striées de noir. Et elle pensait avec un soupir au temps où elle courait, libre comme eux, chez les paysans de Précigny, au bord des sentiers herbeux qui côtoient la Claise et l'Aigronne. Tout le pays de son enfance se levait doucement devant ses yeux. Elle revoyait la figure hâlée de son père nourricier, les bons regards limpides de la Baillargeonne, sa nourrice. Elle entendait le chant des coqs de la métairie de la Joubardière. Il lui semblait y être encore, aux heures d'été où on faisait la sieste, alors que tout était clos, portes et volets, et que, dans cette obscurité rafraîchissante, on voyait un clair rayon lumineux tomber du haut de la vaste cheminée sur les pierres de l'âtre. Ses souvenances rustiques lui revenaient à la file. Le séjour à la Joubardière avait été son seul bon temps. Les métayers étaient les seuls êtres qu'ils l'eussent tendrement aimé, et elle leur gardait en retour une affection qu'elle n'avait jamais eue pour son père ni pour sa mère. L'hostilité existant entre monsieur et madame Desroches avait de bonne heure ralenti et paralysé en elle ces élans de cœur qui rapprochent d'ordinaire l'enfant de ses parents. Chez les oiseaux, l'instinct filial ne dure guère après que les petits sont assez forts pour voler de leurs propres ailes. Il faut la tiède moiteur du nid, le contact réchauffant des plumes maternelles pour que cet instinct se conserve. Il nous faut aussi, à nous autres, l'union intime des parents, la chaude vie en commun sous le même toit, pour que l'amour filial se maintienne dans nos cœurs. Chez les enfants, dont les parents vivent séparés, la réflexion arrive trop tôt, et avec elle, le doute qui glace toute tendresse. Thérèse, entendant tour à tour les plaintes de sa mère contre M. Desroches et les réflexions méprisantes du docteur à l'endroit de sa femme, avait perdu, au milieu de ce conflit de récrimination passionnée, la foi aveugle sans laquelle l'amour ne peut exister. Elle ne savait plus auquel des deux donnait tort ou raison, ou plutôt elle les accusait tous les deux de l'avoir privée de ces bonnes caresses dont jouissaient les autres enfants. Détournée de sa voie naturelle, sa tendresse s'était rejetée vers ces braves paysans qui l'avaient élevée, choyée, gâtée, et qui seuls lui avaient fait connaître ce que c'est que d'avoir une famille aimante et une maison paternelle. Tandis qu'elle était absorbée dans sa rêverie, autour d'elle, tout était replongé dans le silence. Une lourdeur endormante semblait descendre du haut des corniches drapées de toiles d'araignée, comme si, sous l'influence de la chaleur caniculaire, l'ennui contenu dans les bouquins de la bibliothèque s'était soudain vaporisé et précipité en nuages somnolents sur le froid pavé de la chambre. La méditation du docteur n'était plus troublée que par ces menus bruits qui sont l'accompagnement des après-midi d'été et qui bercent nonchalamment les sens à demi ensommeillés. bourdonnement d'une mouche bleue contre la vitre, craquement des boiseries, froissement sec des feuillets tournés méthodiquement. Une heure se passa ainsi. Puis, tout à coup, dans le silence, un faible tintement de grelots, un sourd roulement de roues résonnèrent au dehors, très loin, du côté de la grande route. Thérèse leva la tête et prêta l'oreille. « Ah !» murmura-t-elle, « c'est le courrier. » En 1851, la voie ferrée s'arrêtait à Poitiers. Le service du chef-lieu se faisait encore au moyen d'une diligence qui mettait 7 heures pour amener les voyageurs et les dépêches à Saint-Clémentin, où l'arrivée du courrier était l'événement et la grande distraction de la journée. Thérèse ne s'était pas trompée. La diligence approchait en effet, tirée par ses 4 chevaux, dont on distinguait le trot sur le pavé de la grand-rue. Avec elle, l'animation semblait revenir dans la petite ville endormie. On entendait les volets clos s'ouvrir bruyamment et les gens accourus aux portes échanger de joviales interpellations. « Voici la voiture !» répéta la jeune fille en jetant à terre son atlas. Puis, se levant impétueusement, sans s'inquiéter de ce qu'en penserait son père, elle tira les rideaux, ouvrit la croisée et se pencha curieusement au dehors. Monsieur Desroches lui-même, obéissant moins à la curiosité qu'à cette machinale et vieille habitude qui, pour les habitants de la rue Louis XIII, avait fait du passage de la diligence l'amusement quotidien, se leva à son tour et suivit sa fille à la fenêtre. À ce moment, la voiture débouchait de la grand-rue. Le conducteur sonna une fanfare sur son corps et la lourde machine avança avec précaution à cause du peu de largeur de la chaussée. Les chevaux ruisselaient de sueur. La caisse jaune était couverte de poussière et les voyageurs, éveillés d'un long somme, encadraient leurs têtes poudreuses aux portières. En guise d'escorte, 3 gamins couraient par derrière en s'appuyant au marchepied de la rotonde. À côté du conducteur, cramoisi à force de souffler dans son instrument, un jeune homme de 22 à 23 ans semblait attirer l'attention des bourgeois et des servantes accoudés aux fenêtres. On se le montrait, on le saluait d'un signe de tête, et il répondait gaiement à ses saluts de bienvenue en soulevant son chapeau. Sans être joli garçon, il avait une mine avenante avec ses petits yeux vifs et sa blonde moustache frisée. Thérèse, intriguée par ces démonstrations familières, jetée au passage, se tourna d'un air interrogateur vers M. Desroches. Le jeune voyageur de l'impérial n'avait pas échappé à l'œil observateur du médecin. M. Desroches haussa légèrement les épaules, un sourire sarcastique plissa ses lèvres et il dit de sa voix mordante « Ha ha ! Voilà le fils Moga qui revient au colombier. Si toutefois on peut appeler colombier, le gîte d'un oiseau de proie de l'envergure de son estimable père. » « En effet, remarqua Thérèse, j'aperçois monsieur et madame Moga devant la porte de l'hôtel de France. Ils sont venus au-devant de lui. » À l'extrémité de la rue, près des remises de l'hôtel, à côté des garçons d'écurie et des 2 servantes coiffées du haut bonnet poitevin, un couple bourgeois était effectivement occupé à envoyer des signaux dans la direction de la voiture. La dame agitait son mouchoir, tandis que le mari manifestait de son côté en secouant sa canne levée à la hauteur de la tête. La diligence, oscillant lourdement, s'était enfin arrêtée devant la grande porte de la remise, et le jeune homme, descendant lentement des hauteurs où il perchait, s'était jeté au cou de sa mère, puis avait reçu l'accolade de son père, qui semblait tout aise de revoir son héritier. Il lui prenait les mains, elle l'examinait d'un air satisfait des pieds à la tête. « Peste !» reprit ironiquement le docteur Desroches. « Comme le père Mauga palpe sa progéniture !» Il tâte les mains de son jeune drôle pour voir si les griffes lui ont poussé. « Rassure-toi, fesse merle, bon sang ne peut mentir, et il aura comme toi bec et ongles. »
« Ces Mauga, dit Thérèse en se retournant vers son père, « sont riches et très polis avec tout le monde, et pourtant on ne les aime pas. Pourquoi ? Ne sont-ils pas honorables ?»
Monsieur Desroches secoua les épaules.
« Honorables ? Comment donc ? » s'écria-t-il en ricanant. « On est toujours honorable quand on fait le métier auquel on est propre. »
Dans ce monde, il faut duper ou être dupé, manger ou être mangé. Les Mauguas sont de la race de ceux qui mangent. Voilà tout. Rentrons. La vue de ces gens-là m'écœure.